Six organisations, Amnesty International, CCFD, Terre solidaire, École des droits de l'homme, Médecins sans frontières, Médecins du monde et les Amis du monde diplomatique, soutenus par de nombreux partenaires, dont les étudiants de Sciences Po Toulouse, se sont mobilisés pour organiser le deuxième festival cinéma et droits de l'homme. Cécile Bourdeau-Daguerre explique au micro de Jean-François Courty la genèse et le but de ce festival.
Le festival cinéma et droits humains succède au Festival international du film des droits de l'homme qu'on faisait sur Tarbes depuis 2012. Et ce festival international a été arrêté par les organisateurs il y a 2 ans. Et donc, sur Midi-Pyrénées, il a été décidé de continuer à faire un festival cinéma et droits humains qui présente un documentaire sur des sujets en lien avec les droits humains. Donc sur Toulouse et la région toulousaine, il y a plusieurs films présentés dans plusieurs endroits. Sur les Hautes-Pyrénées, on présente chaque année un seul film, fin janvier, à la Bourse du Travail, ce qui est un endroit très sympathique parce que ça permet de faire de la convivialité en même temps, d'avoir un temps de visionnement du film, un temps de visite des stands des associations et un temps de débat avec un témoin qui vient chaque année.
Qu'est-ce qui a guidé votre choix cette année ?
Alors cette année, il y avait 12 films qui étaient proposés au choix. C'est toujours des films documentaires, je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin je le redis. Et on voulait changer par rapport aux années précédentes. On avait eu pas mal de films sur l'immigration, on avait eu un film sur les droits des femmes, et puis un autre sur l'année d'avant, on a été sur la transition écologique. Donc cette année, il y avait dans les films proposés un film sur le Sahara occidental. Et comme l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui fait partie du collectif, soutient en plus les droits de l'homme au Sahara occidental et des prisonniers qui sont sahraouis et qui sont prisonniers au Maroc, ça nous a semblé une bonne opportunité. Voilà donc le choix de cette année.
Cécile Bourdeau-Daguerre au micro de Jean-François Courty. Cette année, ce festival Cinéma et Droits de l'Homme a consacré à Tarbes, à la Bourse du Travail ce jeudi, une soirée à un peuple oublié, les Sahraouis. Claude Mangin, épouse du leader indépendantiste Naama Asfari, membre de l'Association des Amis de la République Arabe Sahraoui Démocratique, était l'invité d'honneur de cette manifestation culturelle. Son époux est actuellement détenu à la prison marocaine de Kénitra. On l'écoute.
Il est en prison avec ses camarades depuis novembre 2010 et lui a été condamné à 30 ans, d'autres à des peines allant de 20 ans à perpétuité après 2 procès inéquitables, un en 2013, un procès militaire, et un en 2017, un procès en appel devant une cour civile. Mais les mêmes peines ont été reconduites. Ils subissent des représailles continuelles. On veut vraiment les casser, les détruire, les invisibiliser, ce qui est d'ailleurs de toute façon l'objectif d'une colonisation, c'est de rendre invisibles les colonisés. Donc non seulement ils sont condamnés à des peines énormes, mais en plus ils subissent des représailles permanentes, et parmi lesquelles celle, par exemple, d'empêcher une épouse d'aller voir son mari, puisque j'ai été empêchée pendant 30 mois. Et j'ai été expulsée 4 fois du Maroc pour ne pas aller voir mon mari et ne pas participer à ce deuxième procès. Donc j'ai fait une grève de la faim de 30 jours au printemps, après la 4e expulsion. Et j'ai obtenu que le gouvernement français se mobilise, mais ça a pris encore du temps, puisque c'est seulement il y a 15 jours que j'ai été autorisée à retourner au Maroc, les 14 et 15 janvier. Et je n'ai aucune garantie d'ailleurs qu'une nouvelle visite soit possible après. Mais déjà, c'était une belle victoire de tous ceux aussi qui m'ont soutenue pendant cette grève de la faim et pendant ces 8 mois qui viennent de se dérouler et où le Maroc joue un rôle de répression, même en France, puisque par exemple à Strasbourg, où j'ai comme ici présenté le film, où j'étais invitée par l'ACAT pour faire un débat, j'ai un commando de Marocains qui a été envoyé par l'ambassade, par le consulat de Strasbourg, pour m'empêcher de prendre la parole, pour m'insulter. Et ils ont même écrit à l'évêché pour dire que je dénigrais le Maroc dans une église et dans une abbaye. Ça veut dire que le Maroc est souverain non seulement au Maroc, bon après tout, qui m'empêche de venir, ok, mais aussi ils veulent m'interdire de parler ici, en France ou même en Allemagne, puisqu'on a reproché au ministère des Affaires étrangères que j'avais eu une interview à la Deutsche Welle en Allemagne au mois de septembre où j'étais allée faire du lobbying.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une mobilisation internationale qui se développe pour obtenir, enfin, au moins un procès équitable pour votre mari et éventuellement sa libération ?
Disons que cette question est devant l'ONU depuis le cessez-le-feu de 1991. Ça fait 27 ans qu'on attend le référendum d'autodétermination que le Maroc refuse d'organiser avec le soutien de la France, qui est le seul membre du Conseil de sécurité qui soutient le statu quo. C'est-à-dire que là, il y a quand même un pays qui est occupé depuis 45 ans avec toutes les persécutions qui vont avec. Et depuis quelques mois, depuis l'administration Trump, c'est un comble, le processus d'autodétermination est en train de se remettre en route puisqu'il y a eu une première table ronde qui a eu lieu en décembre à Genève où l'objectif c'était que le Maroc s'assoie à la même table que le Polisario, puisque c'est les deux qui ont signé le cessez-le-feu en 91, et qu'il y a une nouvelle table ronde qui est programmée en mars. Et évidemment, le Front Polisario et la République arabe saoudite démocratique mettent sur la table la question de la libération des prisonniers politiques sahraouis, entre autres demandes, l'arrêt de la spoliation des ressources naturelles par le Maroc. Et donc, on espère qu'il y aura peut-être un geste qui sera fait à cette époque, à ce moment-là. Donc, dans quelques semaines, en fait. En tout cas, les prisonniers y croient, leurs familles aussi. Et moi, ben, ma foi, j'y crois aussi. Et de toute façon, ça sera encore long, même derrière, parce que l'objectif, ce n'est pas seulement la libération de mon mari, c'est bien l'indépendance de cette dernière colonie d'Afrique non décolonisée.
Ce pays, est-ce que vous pouvez le présenter un peu ? C'est un pays qui est très désertique, qui a des ressources dans ses sous-sols. Comment peut-on le décrire, ce pays ?
Disons que c'est donc un pays situé, l'ancien Rio de Oro espagnol, hein, c'est une ancienne colonie espagnole. L'Espagne est partie en 1975. C'est un pays grand comme la moitié de la France, qui est effectivement en grande partie désertique, mais qui a une côte de 2000 km extrêmement poissonneuse, et aussi cette ressource importante qui est le phosphate, grâce auquel le Maroc est le premier producteur mondial de phosphate, qui est très utile pour l'agriculture. Et puis c'est aussi un moyen d'unir tout un peuple derrière son souverain que de le mettre en ordre de marche pour cette célèbre formule, la récupération des provinces du Sud. Et c'est vrai que les souverains du Maroc se servent de cette cause et criminalisent les Sahraouis pour dire c'est à nous, et ce depuis les attentats contre le roi Hassan II de Kénitra dans les années 72, attentats organisés par les généraux. Et donc, après ces attentats dont il est sorti indemne, il en a fait exécuter une quinzaine et les autres, il les a envoyés se battre au Sahara occidental. Donc aussi, ça permet aux souverains de détourner l'opinion publique de toutes les difficultés qu'a le Maroc, difficultés économiques, difficultés sociales et difficultés aussi politiques, puisque actuellement, il y a quand même 1000 prisonniers politiques au Maroc, en particulier des Rifains qui se sont révoltés une fois de plus depuis 2 ans. Et donc aujourd'hui, qui le sait en France, qu'il y a 1000 prisonniers politiques marocains dans les geôles marocaines, dans ce beau pays qu'on nous présente toujours comme un modèle, comme une exception. Et il faut dire qu'il y a 70 000 Français qui vivent là-bas, plus tous les touristes. Et que donc c'est un pays dont on a une image positive, alors que c'est un pays qui vit sous un régime quasiment dictatorial. En tout cas, la dernière visite que j'ai faite, l'Association marocaine des droits de l'homme a dit qu'ils ne peuvent plus respirer, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont surveillés en permanence. Et je ne sais pas comment ça va durer. En tout cas, ça serait une bonne chose pour les Marocains qui lâchent ce Sahara occidental. Ça leur permettrait d'utiliser toutes les ressources qu'ils utilisent pour entretenir une énorme armée sur un mur de 2700 km. Pour développer leur pays plutôt que de l'utiliser pour persécuter tout un peuple.
Claude Mangin répondait au micro de Jean-François Courtille.